tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
C'était vraiment très intéressant.
C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages. Prêt à prendre le pouvoir, c'est à vous de jouer sur radio-g.fr.
Si tu es soir, t'as envie d'ouvrir ton tiroir pour voir ce qu'il y a dedans et trouver ça marrant. Alors écoute DMT, émission Radio G, 19h.
Bonsoir et bienvenue dans Mon Tiroir, l'émission qui a des choses à vous dire. Par contre, sont-elles toutes intéressantes? C'est ce qu'on va découvrir ce soir avec cette émission interactive où vous donnez votre avis de chez vous en temps réel et sur le site radio-g.fr. 20e émission en direct. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Bonsoir Corentin.
Bonsoir.
Bonsoir Jonathan.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Malheureusement, il y a un absent aujourd'hui et non, c'est pas Caro qui a une réunion de dernière minute, ni même moi qui oublie carrément l'heure de l'émission. Mais bien notre animateur phare Bruno qui est actuellement en vacances dans sa famille pour un repos bien mérité. Alors on va tâcher d'être à la hauteur et nous tous autour de la table on va lui montrer qu'on a bossé sérieusement. Mais aussi que lui-même il n'est pas indispensable. Je plaisante, je sais qu'il nous est. Bien, est-ce que tout le monde est prêt?
Yes.
Allez, c'est parti pour DMT. Je ne sais pas si on l'a bien entendu le jingle.
Juste la fin.
Je ne sais pas si c'est bien mis, mais bon. Qui a des chroniques ce soir? Qui va commencer? Donc du coup, est-ce que Olivier, tu es prêt?
Oui, je suis prêt.
Eh ben alors, tu vas pouvoir commencer.
Alors dans mon tiroir, je trouve toujours des tickets de cinéma. Donc j'en ai retrouvé d'autres. Et puis, alors cette année, je vais innover, je vais faire la même chronique, mais cette semaine et la semaine prochaine. Je vais vous parler du Festival de Cannes, parce que ça a lieu à partir du 14 mai, du 14 au 25 mai. 25 mai, retenez bien cette date, c'est mon anniversaire, au passage.
Ah. Bon.
Donc là, c'est la 77e édition. La présidente, est-ce que tu sais qui c'est la présidente, Caro?
Non,
c'est une femme. Elle s'appelle Greta Gerwig, c'est celle qui avait fait Barbie l'an dernier.
Ah oui, ça me disait quelque chose.
Ouais. C'est une actrice américaine, c'est connue.
Qui
a fait Barbie.
Ah ouais, bah ouais.
Dans le jury, il y aura, alors les plus connus, c'est quand même Eva Green, actrice française, et puis Omar Sy, qui est le, voilà.
Ah oui.
Acteur français important. Alors, cette semaine, je vais vous parler des films français qui vont être présentés au Festival de Cannes. Alors, l'an dernier, ça avait été fastueux comme édition. Il y avait eu L'anatomie d'une chute, Le règne animal, qui a eu quasiment tous les Césars cette année. Et donc, voilà, quels sont les films français qui vont marquer cette édition? Alors, j'en ai sélectionné deux. Notamment, donc, le premier, c'est un film, ça s'appelle Un amour ouf.
Trop mignon.
Trop du mignon. Alors c'est un film de Gilles Lellouche qui avait fait Le Grand Bain et réunit comme acteur et actrice François Civil et Adèle Exarchopoulos.
Ah,
et d'ailleurs, c'est dans ce film-là, ils sont ensemble apparemment,
ouais.
Ce que j'avais appris, ils se sont rencontrés, enfin ils se sont aimés dans ce film-là, l'amour ouf.
Ouais.
Il y aura aussi Alain Chabat, Benoît Poulvorde, Vincent Lacoste, donc gros casting en perspective. Oh. Donc à l'origine, c'est un roman américain des années 90 qui avait énormément plu à Gilles Lellouche. Il a décidé de l'adapter. Alors l'histoire, c'est à peu près 20 ans d'amour entre Clotaire et Jackie dans les années 80 et 90. Donc c'est un peu à la West Side Story. Elle est issue d'une famille bourgeoise, lui plutôt famille ouvrière. En même temps, il va passer par la case prison pendant quelques années. Donc ça va être histoire d'amour, prison et reconquête. Alors, dans une interview, Gilles Lellouche, il cite que le film citera Scorsese, Tarantino, West Side Story. Faut savoir que ça va durer plus de 3 heures. Ça va être à peu près une comédie musicale. Enfin, ça va partir dans tous les sens. Il a vraiment voulu faire un film, le film qu'il aurait voulu voir. C'est ce qu'il a sorti.
C'est sympa pour les autres films. Hein, parce
que... En fait, il dit qu'il adore le mélange de genres. Ses deux films préférés, c'est Il était une fois en Amérique et Voyage au bout de l'enfer. Et il avait envie un petit peu de faire référence à ces deux films. Donc, sur le papier, c'est un très très gros film ambitieux. Comédie musicale qui va durer 3 heures. Avec une bande son top. Il y aura Cure, il y aura Madonna. Et ça sortira le 16 octobre 2024. Et c'est vraiment le film qui est le plus attendu au Festival de Cannes cette année. Ouais. L'amour ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Emilia Pérez. Emilia Pérez, c'est un film de Jacques Audiard. Jacques Audiard, il a fait pas mal de films, dont Sur mes lèvres, De battre mon cœur s'est arrêté, entre autres. Donc là, Jacques Audiard, il va raconter l'histoire d'une avocate qui aide un chef de cartel mexicain à se retirer des affaires. Et surtout, le chef de cartel mexicain, il a envie de réaliser son plan, c'est-à-dire devenir la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Donc là aussi, il réunit un casting de rêve, Zoé Saldana, Selena Gomez, et puis une actrice espagnole trans qui s'appelle Carla Sofia Gazrón. Donc c'est bien de prendre des véritables actrices trans, plutôt que de prendre des gens qui font semblant ou qui imitent. Voilà, alors... Là aussi, c'est un film musical, donc c'est avant tout une comédie musicale qui va durer plus de 2 heures. Et puis, il a mis en contribution la chanteuse Camille pour faire la musique du film. Camille, c'est plutôt bon signe. Donc voilà, ça sera le deuxième film à voir. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné d'autre? Alors, il y a un film de Christophe Honoré, que j'adore, qui avait fait Les chansons d'amour, par exemple. Je sais pas si tu l'as vu, vous l'avez vu celui-là, non? Alors, il a fait Marcello Mio. Marcello, en référence à Marcello Mastroianni. Donc, il va y avoir dans le film Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Benjamin Biolay, Melville Poupeau, Fabrice Lucchini.
Ah ouais.
Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Chiara Mastroianni, donc, qui est la fille de Deneuve et la fille de Mastroianni. Mm-hmm. Et Chiara, donc, elle est en proie à une crise d'identité, à tel point qu'elle adopte le style vestimentaire de son père. Donc elle prend un chapeau, des grosses lunettes, elle imite la manière de parler de son père, et en fait elle trouble son entourage, et tout le monde va être bluffé, et il va commencer à l'appeler Marcello Mastroianni. Quoi. Donc, film d'auteur, qui va peut-être parler aux cinéphiles, quoi, mais bon, j'ai hâte de voir ça, ça va être surprenant, je pense, Marcello Mio. Et puis sinon, pour le film français qui est le plus attendu, ça sort le 28 juin 2024, il sera présenté hors compétition au Festival de Cannes. Alors c'est dans la lignée des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, on a eu le 1, on a eu le 2, et donc là il fallait bien adapter un autre roman de c'est Dumas.
Le Chevalier de Maison Rouge.
Ouais, tu as raison Florian, le Comte de Monte Cristo.
Qui
sortira le 28 juin, et dans le rôle titre, donc Edmond Dantès, on aura un des... plus grand acteur français actuel, Pierre Ninet.
Non.
Tu l'aimes pas,
Caro. Ah non, pas du tout.
Tu l'aimes pas?
Ah, bah alors, il est très drôle dans La Flamme et tout ça, les petits trucs, je le trouve très drôle, mais alors, il est sur-arrogant.
Qu'est-ce que tu lui trouves? Tu préfères François Civil, quoi.
Bah oui, plus détente, ouais.
Les deux. Mais, vraiment?
Ah ouais,
il... J'adore, moi j'aime bien.
Ouais, bah, il a une belle gueule, quoi, mais après...
Est-ce que t'as vu Sauver ou Périr,
Non, je peux pas.
Boîte Noire,
c'est physique. Boîte Noire,
c'est super.
Boîte Noire, il est incroyable.
Même dans Saint-Laurent aussi.
Je l'ai pas vu, Saint-Laurent. Ouais. Mais c'est vrai qu'il joue beaucoup de ce côté, genre, je suis hautain, il le disait beaucoup en interview, vous disiez beaucoup de gens ont l'impression que je suis un gros connard et qu'il joue là-dessus, mais c'est vrai que, je vois ce que tu veux dire
sur... Il a un petit côté tête-à-claque, là, quand même.
Il est super drôle, en plus, dans LOL, il est excellent.
Il est drôle,
Moi, je le trouve vraiment trop drôle. Mais d'un côté, je peux comprendre. Alors que pourtant, j'adore le gars, je peux comprendre ce que tu veux dire. Alors que François Civil a peut-être plus le côté modeste.
Oui, un peu plus détente.
Ouais.
Mais plus mec.
Ouais. Aussi. Peut-être.
François Civil.
De quoi le côté viril?
Oui. Peut-être aussi, quoi. Non, je sais pas. Pour comprendre tes goûts.
Non, il est beau garçon, Pierre Ninet, mais je trouve qu'il en surjoue beaucoup.
Ouais.
Il le sait, quoi.
On
peut pas tout.
Moi, je pense que François Civil, il sait qu'il est beau gosse aussi.
Oui, bah oui.
Ok.
Voilà. Et puis dans 15 jours, on verra les films américains, asiatiques, sud-américains, enfin tout, quoi.
Ça, c'est cool.
Très, très bien.
C'était vraiment très intéressant.
Et ben, merci Olivier.
Pour une fois, j'ai pas eu de.
Ça s'est arrêté avant. Donc, on va pouvoir reset les. Tu t'en charges ou.
Les votes. Je te laisse faire.
Eh bah, ben écoute, ouais. Formidable, ça me fait un truc de plus à faire. Non, tu as raison, tu as raison. Hop, voilà, c'est fait. Comme ça, Bruno qui nous écoute se dit, oh putain, je vais le choper. Caroline, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Bonjour. Bah, allons-y, bah, bonjour tout le monde.
Come back.
Eh bah, oui, c'était un grand retour.
Mais vous êtes qui?
Qui êtes-vous? Présentez-vous.
Vous avez changé un peu.
Et oui.
Nouveau look, nouvelle lunette.
C'est ça.
Toujours
ouais,
très radiophonique, bah, le côté lunette visuelle.
J'essaie d'être un peu plus sérieuse, parce qu'on vieillit, mine de rien. Les années passent à la radio et on vieillit. Oui, mais ça ne nous empêche pas de vieillir, mais d'être tendance.
Wow.
Et pour être tendance cette année, qu'est-ce qu'on va opter? On va adopter le sac banane. Et ouais, oh la vache, c'est pire que Pierre Ninet.
C'est mon Pierre Ninet, moi,
Pierre Ninet de la mode.
Tout le monde adore Pierre Ninet, mais voilà, mais tout le monde adore
ça. Et ouais, c'est vrai que bon, je comprends la controverse. Bon, en tout cas, on en trouve à paillettes, des fluos, et même la grande mode, c'est que les sacs bananes upcyclés.
Ah oui.
Donc upcyclés, vous prenez un tissu que vous avez d'autres choses et vous en faites un sac banane. Il y a beaucoup de tutos qui circulent sur internet, c'est hyper facile à faire. Et pourquoi? Parce que c'est la grosse tendance des sacs bananes.
Mais alors, le sac banane.
Oui.
Dans les années 80, ça se portait
exactement,
à la taille.
Ouais.
Mais là, c'est plus le cas.
Non, cette année, c'est autour de le. Oui, c'est sur l'épaule, une épaule, ouais, et puis au milieu du torse.
Du torse.
Pour, pour faciliter un petit peu les mouvements.
Parce que ça se fait toujours devant, mais c'est seulement quand t'es en brocante. Uniquement. Tu n'as pas le droit de le porter autrement.
Ou les touristes allemands.
Disons, moi, je le fais. Ouais. Ou les touristes allemands, mais ça va uniquement avec les chaussettes qui sont en dessous.
Exactement.
C'est fourni avec.
Double mauvais combo.
Mais bon.
Et le top du look, c'est la banane devant.
Ouais.
Et le caouet replié derrière.
Oh, c'est bon, ça. Hey.
Oh là là.
Franchement.
Le chameau, quoi.
Le double.
Et oui. Et pourquoi ça fait son grand retour? Eh bien, parce qu'on a surfé sur la tendance du vintage, là, depuis quelques temps. Mais là, c'est la nouvelle vague. C'est la tendance du ridicule.
Oula, vraiment?
Ouais. Retenez ça.
Oh non.
Donc, évidemment, on va faire un petit peu la chronique du sac banane. C'est que c'était une véritable icône dans les années 80. Olivier, t'en as eu?
Ah non.
T'as pas eu de banane?
Ah, j'ai surtout. Même dans les années 80,
moi j'en avais dans les années
2000, du coup aussi.
Quand j'étais enfant, années 90, ça tenait encore le coup, les fluos et tout.
On mettait les billes, les cartes Pokémon.
Les billes et tout, ah ouais.
Les billes, mais bien sûr.
Exactement. Alors, elle est devenue ensuite un peu ringarde au début des années 2000-2010, à cause des touristes allemands, entre autres. Et donc, mais au fond, l'origine n'est pas si récente que ça. Figurez-vous qu'on trouvait des sacs bananes en 3300.
Attends. Je vais te laisser décrire, mais j'espère que c'est bien une sac banane et t'es pas en train de nous définir une sacoche, parce que sinon, oui, la sacoche, effectivement...
Eh bien, les hommes portaient déjà des peaux d'animaux un petit peu enroulées autour de la taille pour mettre des petits objets.
D'accord.
C'était quoi comme animal, c'était quoi?
Oh, de la peau de zébu.
La peau de zébu.
Non, je sais pas.
Elle l'a dit avec un aplomb. Mais écoute, c'est de la peau de zébu, ça se tonne bien.
La peau de buffle, tu vois, la peau un petit peu travaillée, quoi, quand même. D'accord. Et on n'y mettait que les petits objets.
Donc les clés, les pièces de monnaie, tout ça, en moins 3000.
C'est ça, ouais. Le jeton de...
Le jeton de caddie. Et les Nokia 3310.
Exactement. Et malgré tout, c'est en 1954 qu'elle cartonne grâce à un magazine américain de sport qui s'appelait Sport Illustrated. Pourquoi? Parce que les skieurs portaient beaucoup de sacs bananes pour avoir les mains libres.
En 54 déjà? Ouais.
Et donc, ensuite, ça s'est rendu accessible un petit peu plus au public. 1980, grosse mode. J'ai l'impression que dans le chat...
Alors Bruno est sur le chat et il nous dit « Moi, j'ai eu, mais ça vous étonne pas, j'imagine. » Non, effectivement, Bruno, ça ne nous étonne pas.
Bah
comme 50, tu es quelqu'un qui a connu beaucoup de choses, voilà, on sait que tu as eu un sac banane.
Mais Bruno est tendance, tu vas pouvoir le ressortir, Bruno. Et alors voilà, donc elle est devenue accessible au public dans les années 80-90. Et pourquoi le mot sac banane? Pourquoi? Bah c'est tout bête.
Ça
ressemble à une banane.
Et ça c'est important, tes chroniques, parce qu'on apprend des choses.
Mais exactement. Et alors ce qui est plus drôle, c'est que en anglais on dit pas banane forcément.
On dit banana,
on dit fanny pack ou bum bag. Un sac fesse littéralement.
Ouais.
Sac fesse. Oui, car ça se porte un petit peu plus haut que les fesses. Au final.
Et devant surtout. Mais ouais, d'accord, ok.
Donc voilà. Pour la petite anecdote drôle.
Mais chacun met ses fesses où il veut.
Et sa banane.
C'est une question culturelle.
Devant, derrière.
Mais t'en as, toi?
Non. Des fesses ou
alors
des
sacs bananes? Non. Alors, bon, ensuite, on va couper court à cette discussion. La décennie du sportswear, les clips R&B, etc., on les a beaucoup vus. Et là, c'est le retour du beau moche. Donc vous allez pouvoir ressortir vos sacs bananes. Alors après, je te comprends. Le plus, c'est quoi? C'est que c'est pratique.
Oui, c'est
plutôt,
alors c'est vrai.
C'est plutôt joli, c'est pratique.
Non, alors c'est pratique.
C'est pratique.
Je suis
d'accord. Bon, maintenant joli, c'est retravaillé, il y a des paillettes et non, tout, c'est fun.
Je suis d'accord. Il y en a qui sont plus jolis. Moi, c'est vrai que je vois ça trop streetwear et trop soit vraiment dealer.
Ouais.
Enfin, vraiment, enfin, les gens
oui,
qui avaient des bagues comme ça.
Les Lacoste.
Voilà, j'allais les voir pour une seule chose, qu'on soit d'accord. Mais voilà, après. C'est dur de le voir vraiment classe, mais il y a des gens qui le portent avec classe. Hein.
C'est le moins du truc, c'est que forcément on va un peu se lasser, je pense. Ouais. D'ici l'année prochaine, c'est fini, et surtout c'est pas très chic.
Pour moi, ouais. C'est difficile.
Donc, est-ce que vous allez succomber à la tendance du sac banane, Olive?
Mais c'est vraiment chic d'avoir une banane.
Genre, c'est pas chic. C'est pratique.
LVMH et tout, Louis Vuitton et tout.
Ah bah si t'en as une Vuitton, oui tu.
Oui, c'est classe ou pas?
En velours
ouais, en Vuitton, mais après t'en as des petites boutiques, non?
Ouais.
Ah t'es entre deux.
Ouais non.
Toi c'est une chic ou rien.
Tu me connais bien.
C'est ça. Hein. Il faut du luxe. Et vous les gars?
Coco peut-être. Toi tu as une idée sur le sac banane?
Non. Moi je suis comme toi. Hein, dernier que j'ai vu emporter.
Ouais. On est d'accord. C'est les places de l'église. Tu les connais hein?
Il y a Bibi, je sais pas qui c'est, qu'on a une en fourrure.
Ah oui,
une en fourrure.
Alors ça par contre c'est trop bien, je valide.
Ah ouais, ça c'est trop drôle. Non mais c'est trop drôle. Après c'est peut-être plus féminin que masculin, je pense.
Ah, tu penses?
Moi je vois beaucoup dans la rue, c'est un peu les mamans, c'est un peu pratique quand t'as un peu tout sous la main et que t'as un truc un peu joli.
Ah alors ça j'avoue que pour le coup, je l'ai pas vu nécessairement genré, j'ai vraiment vu pas tout le monde tout le monde en porter.
Ah,
les
gars
bah moi ça fait 15 ans que mon père en porte donc
C'est vrai.
Mais il le porte comment? Est-ce qu'il a changé de manière de le porter?
Alors oui, il a porté
autour de la taille, ouais. C'était le classique des darons des années.
Il apporte maintenant en bandoulière.
Ah ouais.
Ah ouais, c'est ça.
Donc il a évolué.
Un petit peu sur un bras. Voilà, c'est
sur
ça.
Un bras, ouais.
Flo, peut-être.
Ah, moi non, déjà à l'époque.
déjà à l'époque, t'étais visionnaire. Quand t'avais 10 ans et tout, non, t'avais pas ta petite banane.
Je peux pas la ressortir.
Bah ouais, Kiki.
Bah je peux pas, elle est rose et il y a les billes dedans, du coup, encore.
Ah, et toi aussi, il y a encore les billes dedans, d'accord.
Ouais, c'est vrai que c'était ça.
Je sais pas où les passer, la
mienne. Oh, c'est un peu nostalgique.
Oui, non, mais je comprends tout à fait l'aspect nostalgique et le côté pratique. Ça, on peut pas l'enlever. Après, bon, le côté classe. Je sais pas, on verra dans le temps si ça continue. En tout cas, c'était peut-être très intéressant.
Ils vont peut-être lever sur le nouveau modèle.
Tu disais oui, il va peut-être y avoir des nouveaux modèles. Ouais, mais comme elle dit, enfin là, ça fait un petit moment que c'est là.
Oui.
Je pense qu'on est déjà sur la prime
fin
du truc et ça va s'essouffler.
Ça va être le dernier été, je pense.
Je pense aussi. Ouais, tout à fait. Coco, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que tu as pour nous ce soir?
Alors, dans mon tiroir, j'ai trouvé un pistolet Nintendo NES.
Oh.
Tu dois connaître ça.
Oui. Alors, j'ai pas une NES, mais oui, je.
Alors, donc, du coup, j'ai trouvé une petite anecdote avec ce pistolet-là. Un Américain de 25 ans a été interpellé après avoir braqué une supérette avec un pistolet en plastique utilisé pour jouer à Duck Hunt. L'homme de 25 ans a été interpellé après avoir tenté de dévaliser une supérette à l'aide d'un faux pistolet conçu pour un jeu vidéo Nintendo, David Joseph D'Alessandro. Donc il a braqué une épicerie dans une petite ville en Californie, en Caroline du Sud, pardon. Et selon des témoins, il serait entré dans l'établissement en portant une perruque, un sweat à capuche et un masque. Il aurait ensuite demandé environ $300 à la caisse en montrant l'arme factice qu'il portait à la ceinture. Et pas dans son sac à bananes. Malheureusement, dans un souci de réalisme, le braqueur avait tout de même peint l'accessoire en noir, ce pistolet plus communément appelé le zapper, et gris et orange à l'origine. Il est sorti dans les années 1980 pour accompagner le lancement de la NES.
Ok, voilà. Mais donc, sur le moment, vous pensez que... Alors là, on l'a tous en tête, mais il y a quelqu'un qui vient avec une arme, même si ça a pas vraiment la forme. Je pense que on se fait tous dessus réellement, parce que là en soi, on se dit ouais bah c'est un pistolet en plastique.
Ouais.
Mais comme tu nous le dis d'avant, je pense que sur le moment, ah non Florian,
c'était pas bien.
Il était de quelle couleur le?
Bah ouais, du coup
il
l'avait
pas.
Non, il avait pas trop
coupé. Ah, oui.
Alors j'ai pas retenu. Il a réussi du coup à faire son braquage?
Après derrière j'ai lu, il s'est fait arrêter.
Ah oui non mais il s'est fait arrêter. Ouais, mais ouais, par contre sur le moment le mec il a vraiment cru. Il
lui
a
dit
ouais t'es gentil avec ton pistolet en plastoc.
Après les Américains c'est un autre monde donc forcément.
Ouais c'est sûr. Mais il y avait eu le problème entre guillemets avec les pistolets à billes pardon qui avait au début des années 2010. Où au final, ça ressemblait de plus en plus à des vrais pistolets qui pouvaient tirer des vraies balles. Et je crois qu'il y avait une une loi qui disait que ça devait être le bout du canon devait être peint en orange pour bien qu'on comprenne que ce soit une arme tactique parce que sinon
oui
ouais je
ça ça me dit quelque chose ouais.
t'as beaucoup fait d'airsoft toi
alors non mais j'ai le truc ouais
d'ailleurs sur la Nintendo moi j'ai eu la Nintendo la première je pense
oui
et du coup le pistolet était orange et gris
ouais.
Oui.
Et donc, du coup, effectivement, on voyait bien que c'était pas un vrai pistolet. Du
coup. Ah, si ça, tu avais écouté la chronique de Cocos, mais donc, du coup, comme il disait, il l'a pas en noir. Je pense que c'est ça.
Oui,
alors, je me rappelle plus exactement la forme. Est-ce que la forme fait vraiment flingue? Non, pas trop?
Ah, mais tu prends pas le risque, hein.
Ouais, non, mais oui, en fait. Je crois que t'as tout à fait raison. Tu prends pas le risque.
Non, mais
avant que tu sois joueur.
Ah, ouais, non, c'était pas un faux.
Après, tu connais pas toutes les armes qui circulent non plus, les formes et tout, donc du coup, tu fais.
Non, c'est sûr.
Enfin, tu fais quand même gaffe, hein. Je pense pas qu'il faut jouer.
On pourrait presque digresser sur un chanteur français.
Ah, c'est clair.
Pas digresser, mais bravo pour ta chronique.
C'est vraiment très intéressant.
Jonathan, du coup.
Oui, alors, dans mon tiroir, au milieu des slips Hugo Boss, mais ça, je vous en parlerai une autre fois, j'ai trouvé un vieux rasoir tout plein de poils. Ah, et il m'est venu. Une question.
Mais des
c'est glamour ce soir. Hein. Mais d'où nous vient cette idée de se retirer les poils?
Deviennent les poils surtout. Parce que c'est comme ça.
Ah mais ça tu le sauras à la fin.
Ce sont des poils de quoi? Voilà. C'est ça qu'on veut savoir.
Eh bien, cette idée ne date pas d'hier puisque le premier rasoir attesté daterait du paléolithique autour de 30 000 ans avant Jésus-Christ. Et il était en silex. Nos ancêtres pouvaient même utiliser des coquillages pour se gratter les poils et se les arracher. Voilà. Faut imaginer le truc.
Se gratter les poils
avec le coquillage.
Alors, non mais c'est vrai.
À Noël, c'est pratique avec les huîtres.
Alors c'est vrai qu'on imagine toujours nos ancêtres de la préhistoire avec des grosses barbes et des gros cheveux. Eh bien non, c'est une fausse idée. C'est une idée qui a été véhiculée par des dessins du 19e où l'homme préhistorique était représenté sale, hirsute et un peu gogol sur les bords. Et pourtant, on a retrouvé des peintures pariétales où l'on voit des hommes apparaissant à la fois barbus mais aussi rasés. Par contre, je ne sais pas dire si sur ces peintures, les femmes étaient représentées avec des jambes chevelues ou rasées, ça, c'est pas. Plus tard en Égypte, dès 3000 ans avant Jésus-Christ, donc on retombe un peu dans les périodes que tu
De l'arrivée de la sacoche banane.
On s'épilait des pieds à la tête et même les sourcils aussi bien hommes que femmes. Et tout ça pour mettre des perruques et des barbes postiches. En fait, le poil était considéré comme impur, alors rien ne devait dépasser. Par exemple, le prêtre devait être entièrement épilé avant d'entrer dans le temple. À l'époque, on utilisait principalement la cire d'abeille et le sucre, mais aussi des pinces à épiler en bronze ou deux coquillages pour faire la petite pince. Donc on arrachait les poils comme ça avec la...
Bruno avec le coquillage. Nous précise quand même que lui, il n'en a pas des poils.
Il n'y en a pas.
Non, je confirme. Ouais.
C'est peut-être
c'est pas comme ça.
Puis en Inde et en Asie, toujours à la même période, est apparue l'épilation au fil. Et ça, c'était la révolution, on tenait un truc. Du coup, cette pratique s'est répandue jusqu'au Moyen-Orient. En gros, on faisait rouler le fil sur la zone à épiler pour qu'il s'entortille sur les poils arrachés. Et tac, tu tirais d'un coup. Mais c'est une technique qui existe toujours pour les sourcils, il me semble.
Ah ouais?
Ah oui, c'est vrai.
Il me semble. Au fil, ouais. Ouais.
D'ailleurs, il y a eu l'émission En Terre Inconnue.
Ouais.
Il y a une fois, je sais plus qui était allé effectivement dans un pays asiatique, et du coup, les mecs se sont rasés comme ça avec deux fils, et en fait, la personnalité a été obligée de le faire, En tout cas, elle l'a fait aussi, du coup, comme ça aussi.
Bah, oui. J'ai l'impression que ça arrache plus comme ça.
Ça arrache plus que ça rase, oui.
Est-ce que t'es allé au bout de la chronique et t'as testé toutes les manières de se faire épiler, Jonathan?
Non. Quelques-unes, mais pas toutes. Donc voilà. Et puis en Grèce antique, on sait tous que la barbe était un signe de virilité et de sagesse. Par contre, tout le reste du corps devait être rasé et épilé de près. Chez la femme, l'épilation des poils pubiens était la règle. Tout devait être lisse comme un bébé. On utilisait des rasoirs et des crèmes dépilatoires. Et comme le laser n'existait pas encore, il arrivait qu'on brûle les poils pubiens à la flamme d'une lampe.
Voilà.
Et puis chez nos amis romains, vous me direz, ils s'épilaient après le passage au terme. Par contre, chez eux, pas de barbe ni de moustache. Les poils, c'était bon pour les pauvres et les barbares. Pour les femmes, on considérait l'épilation comme un soin avant les relations sexuelles.
Ah, il y avait quand même cette notion-là.
C'est ça. Et après les Romains, que s'est-il passé? Eh bien, je n'ai plus assez de temps pour en parler.
Si, t'as le temps.
Tout ce que je peux vous dire.
T'as une demi-heure.
La chronique finit comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la chute de l'Empire romain, les invasions barbares, tous des vilains barbus, et la religion catholique, la mode de l'épilation s'est arrêtée, y compris pour les femmes, car il faut garder les poils que Dieu nous a donnés.
Wow. C'était vraiment très intéressant.
La fin est très très bien.
Dans
préparée.
Le dos, faut épiler quand même. Voilà.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, mais ça, chacun et chacune fait ce qu'ils veulent de ses poils.
Sur les
ses
épaules poils. Aussi.
Florian,
l'hiver, c'est bien.
Oh, Florian, peut-être une chronique pas sur les poils.
Non, pas sur les poils, mais sur quoi? Sur les photographies, puisque dans mon tiroir, j'ai retrouvé une vieille photo d'identité. Et je ne vous dis pas. De quelle année? Voilà, et donc du coup, je me suis intéressé à la photo d'identité, de quand elle date et pourquoi on met les photos d'identité un peu partout.
Ah.
Pourquoi on en fait? Alors, en fait, c'est en 1854, donc 15 ans après la naissance de la photographie, que la photo d'identité voit le jour. Et c'est Eugène Disdéry qui dépose le brevet de la photocarte de visite ou portrait-carte. Donc en fait, il invente un nouveau procédé qui permet d'imprimer 6 clichés sur une plaque de verre. Et donc, il réduit le coût de la production et les prix aux clients. Et donc, ce type de photo en fait, devient accessible à un peu plus de monde. Voilà.
Il était français, ce monsieur ?
Il était français, tout à fait. Oui, j'ai pas dit, effectivement. Alors, les photos ont donc un petit format proche de la carte de visite. En fait, carte de visite, et je pense que on peut en avoir aussi. Vous avez des archives de vos grands-parents, arrière-grands-parents, tout ça.
Sur des plaques en verre?
Non, pas sur des plaques en verre, en papier. Mais en tout cas, le petit format, je pense que vous avez des petits formats en noir et blanc, mais du coup, on peut en retrouver en tout cas des comme ça, donc c'est le même principe. Donc un petit format est proche, effectivement, de notre photo d'identité actuelle. Mmh. Et je vous demanderai quelle est la taille de la photo d'identité actuelle.
Alors,
c'est tout petit, c'est comme une carte.
J'en ai vu récemment, ça doit faire 5 par 7,5.
Non, c'est 4,5 de haut et 3,5 de large.
C'était pas long.
Effectivement, c'est pas grand.
C'est la dimension homologuée par l'ANTS, le truc d'État. Alors, Eugène Disdéry prouve, du coup, que le portrait n'est plus le privilège des classes supérieures et des puissants. Même si quand même il devient souvent le photographe officiel de certaines cours en Europe.
Oui.
Et il photographie quand même des gens plutôt riches, du coup.
C'est pour tout le monde, mais par contre, moi, mes clients, c'est que des bourgeois. Okay.
Tout est relatif, effectivement. Ensuite, c'est au cours des années 1880 qu'Alphonse Bertillon, que vous connaissez parfaitement, j'imagine, qui travaillait à la préfecture de police, instaure le principe du portrait pour identifier les personnes arrêtées et les criminels. Et donc, en fait, il constitue des fichiers avec des empreintes digitales, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, diverses informations, notamment les signes un petit peu particuliers et distinctifs des personnes, et une photo de face et de profil de la personne. Donc, c'est un peu en mode américain, face, profil.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment... Enfin, ça se rapproche beaucoup, du coup, de la photo dont on connaît, en fait, actuellement, la petite photo réduite du visage, puisque Eugène Disdéry, en fait, lui, il faisait des... Il faisait pas forcément le portrait, il faisait des photos en pied souvent, mais format carte de visite.
Ah, okay, ah oui, d'accord.
Donc en fait,
de toute la personne.
De toute la personne.
Ok.
En format tout petit.
Voilà. Et là, lui, Alphonse Bertillon, il dit on garde que la tête, du coup, le reste nous intéresse pas.
Oui, parce que, oui. Voilà. Effectivement, pour
qu'il faut identifier facilement la personne.
Bien sûr.
Ensuite, c'est en 1889, à l'occasion de l'exposition universelle, que fut présentée la première machine à prise de vue automatique pour les portraits. Mm-hmm. Donc les choses commencent à devenir un peu plus industrialisées. Du coup, et donc c'est plus simple de faire des photos. D'ailleurs, il existe un important fonds iconographique à la BNF, au musée de l'armée et au musée d'Orsay, avec la moitié des 50 000 références de photos que Eugène Disdéry avait gardées. Donc 50 000 photos, donc il y a la moitié dans les musées français, les autres ont été un peu éparpillées, et des collectionneurs qui ont acheté, donc c'est des collections privées. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des portraits célèbres, dont Giuseppe Verdi qui est en pied, et Napoléon III et Eugénie sa femme, mais aussi les jambes de l'opéra. Donc du coup, Eugène avait pris les photos des jambes des danseuses et il les a regroupées dans un même espace.
On comprend. D'accord.
Ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et en fait, je...
Et finalement, si.
Ça me fait très mal de te dire stop, mais malheureusement, c'est le principe de cette émission. Bon, je vais voter dans le chat.
C'était vraiment intéressant, pourtant.
Ouais, mais moi aussi, je trouvais ça intéressant, mais bon, on va pas déroger au principe
Bruno,
de cette. Je soupçonne un petit peu Bruno d'être derrière tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est le principe de cette émission. Si pendant les chroniques ou les musiques, vous voulez voter sur le site de Radio-G, vous pouvez dire si vous trouvez ça cool ou si vous préférez arrêter directement ce qui se passe à l'antenne. Donc tout ça, c'est sur le site de Radio-G.
Et ce qui est dingue, c'est que...
Et j'aurai une deuxième chronique après, du coup, c'est la suite de la...
Avant les photos, t'avais les portraits, enfin les peintures, ou dans les familles nobles, en fait.
Oui, on faisait les tableaux.
Pour se marier, ils faisaient des tableaux, ils ont envoyé les tableaux aux futurs mariés et tout. Ça prenait du temps, mais c'était... Ouais.
Bah, du coup, ça, oui, c'est comme une photo d'identité, du coup. Bah, oui. C'est un tableau d'identité, quoi. C'est...
Eh oui, bon bah écoute, désolé pour ta chronique, hein, ça sera pour une prochaine fois potentiellement. Dans quelques minutes, on refouillera nos tiroirs, mais avant, on va jouer au Graal. Le Graal, c'est le podcast qui vous fait découvrir en deux minutes des films, des séries et des musiques. Ce soir, c'est une série qu'il faut retrouver. Écoutez bien autour de la table et vous aussi, vous pouvez répondre sur le chat si vous trouvez la réponse.
Salut, partons à la rencontre d'une série. À l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour retrouver le titre. Soyez attentif à ce que va vous raconter le personnage principal de la série. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série ? C'est parti.
Vous savez, Miami est une ville éclatante, avec ses plages ensoleillées, ses voitures de sport rutilantes et ses palmiers qui se balancent doucement dans la brise. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette façade glamour se cachent de sombres secrets. Des secrets que je connais bien. Ma journée commence comme celle de tout le monde. Une tasse de café, un journal et le soleil qui brille. Mais ce n'est qu'une façade, une illusion. Car la nuit, je deviens quelque chose de bien différent. La nuit, je deviens un artiste. Oui, un artiste de la mort. Je me promène dans les rues sombres de cette ville, traquant ceux qui pensent avoir échappé à la justice. Et croyez-moi, ils ne me voient jamais venir. Ma sœur, Debra, travaille pour la police de Miami. Elle pense que je suis le type le plus droit du monde. Et mon père adoptif, Harry, il m'a appris tout ce que je sais sur le code, une série de règles qui me guident dans ma quête pour nettoyer les rues de Miami. Ironique, n'est-ce pas? Un tueur en série avec un code moral. Alors, bienvenue dans mon monde. Un monde où l'humour noir et l'ironie abondent, où la justice est rendue d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous pensez avoir tout vu? Vous n'avez encore rien vu. Préparez vos scalpels et retrouvez-moi quand vous aurez le Graal.
Morgan vous a-t-il fait découvrir cette série policière de 2007? Je vous laisse encore quelques secondes. Il fallait découvrir la série Dexter. À bientôt pour un nouveau Graal.
Le Graal a retrouvé un podcast sur radio-g.fr. Alors autour de la table, à part avec la musique, du coup personne n'avait trouvé, mais
Bruno l'a trouvé, tu m'étonnes.
Bruno l'avait trouvé. Alors Bruno, il les a entendus 100 000 fois les Graals, d'accord. Donc ça m'étonne pas, mais bon.
C'est trop fort.
Oh putain, ouais, bravo, hey, bravo Bruno, tu veux qu'on te fasse des médailles comme ça quand tu trouves tes propres chroniques. Enfin, coucou, je sais pas si c'est lui qui les a fait les Graals, mais je pense vu que ça fait avec de l'IA, bah oui. Ce n'est pas étonnant. Enfin. C'était le Graal du crew à retrouver sur radio-g.fr, je l'ai déjà dit. C'est très drôle parce qu'en fait, j'aurais pu le dire comme ça, vous auriez pas du tout capté.
Non, c'est clair.
On va le refaire quand même une fois comme si c'était naturel. C'était le Graal à retrouver sur radio-g.fr, rubrique podcast plus et quelquefois dans Topette. Vous êtes toujours dans DMT, dans un instant on retrouvera les chroniqueurs qui fouillent leur tiroir, mais avant un peu de musique.
Ouais.
Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir un jeune artiste du nom de Houston 13 en chiffres romains. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre sur DMT, mais comme Bruno n'est pas là, je peux en profiter pour passer mon artiste favori. Donc, voici Mirage de Houston 13.
Tu sais pas, toi, c'est pas si facile d'être heureux. Je fais des mauvais rêves et je vais nulle part sans eux. J'suis au stade de ma vie où j'ai plus trop de chez moi. J'suis pas d'ici ni de là-bas, j'mate la vue sur les toits. J'connais aucun de tous ces visages. Pourquoi j'bâtis ma vie sur des mirages? J'rêve d'un monde où j'vis, j'rêve d'un monde où j'dors. Fuck une vie facile, moi j'journe mon argent. Oh yeah. C'est mon père qui me dit mon fils, tu finiras à terre et pas juste une fois. Mais si tu te bats, tu mourras peut-être pas. J'sais que je suis dur mais je le fais pour toi. Mais fuck la peur, fuck les hyènes. Une âme pure, c'est un cœur qui saigne. Y'a du feu dans la neige, y'a du feu dans ma tête. Car mes yeux, si tu veux capter le film. Si je recule, c'est que je vais de l'avant. J'fais du son depuis enfant. J'faisais des concerts seul dans ma chambre. Maintenant j'fais le tour de la France. Le temps passe vite, j'veux plus en perdre. Tous mes démons mettent à genoux à terre. Et fuck toute leur guerre, j'supporte plus leur jeu d'acteur. Non. Oh yeah. Le diamant fumé quand j'expire. Des mois dans le tunnel, pas besoin de lumière. Sans qu'il y a un truc qui brûle en moi. Un truc pur, ce monde est dur. Et t'apprends rien si tu souffres pas. C'est que mon ambition me tuera. Mais je serai mort pour un rêve. Un jour tout se finira. Même les étoiles s'éteignent. Hey, faut que tu le sentes. J'ai le truc, il faut que tu le sentes. Si le diable en chope les cordes, on vise la tête, on tire dans la tempe. Yeah. Oh yeah.
C'était Houston 13 avec le son Mirage. Vous êtes toujours dans DMT sur Radio G, l'émission qui vous donne le pouvoir. Rendez-vous sur le site radio-g.fr, sur votre smartphone ou votre ordinateur. Accédez à la page des votes pour pouvoir juger en temps réel les chroniques qui vont suivre. Mais aussi nous parler en live sur le chat. Il est temps de réouvrir nos tiroirs. Voici les nouvelles chroniques. Alors tout à fait entre nous, j'ai eu très peur parce que j'ai vu marquer erreur sur le truc des jingles. Je me suis dit putain, tout va planter. Mais finalement, non, c'est bon. Corentin, je crois que tu as une chronique.
Oui, j'en ai une petite deuxième. Alors.
T'inquiète pas. T'aurais pu avoir un on s'en fout, mais. Non, non, vas-y, je t'en prie.
Alors, dans mon tiroir, j'ai trouvé une corde.
Ouais. Le fun.
C'est pas du tout ce que tu crois. D'accord. Alors, du coup, parlons bien, parlons sport, quelques mois avant les JO. Le mercredi 10 avril, Anouk Garnier a monté les deux premiers étages de la tour Eiffel à la corde. Oh. Soit 110 mètres à la force de ses muscles. Elle bat ainsi le record mondial masculin et féminin. Après sa montée, l'athlète a raconté son expérience, son entraînement drastique, mais aussi sa joie d'avoir complété ce défi aussi dur que symbolique, puisqu'il s'agissait de grimper le symbole français à la veille de la tenue des Jeux Olympiques de Paris.
Wow. Voilà. Ils en ont pas parlé du tout.
Non, ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure.
Il avait le droit du coup de le faire.
C'était une femme.
Ah, c'était une femme.
Oui, fait en sorte qu'elle le fasse. Il y avait déjà une première femme qui avait tenté de le faire.
Okay.
Et elle a complètement battu le record.
Tu disais combien du coup?
110 mètres. Elle a monté deux premiers étages ouais, de la Tour Eiffel.
Et oui, il y en a qui le font en S, ça, donc le 110 mètres S, ça se fait très bien.
À la corde, ça veut dire qu'ils attachent la corde au milieu du.
Ouais, c'est ça. En fait, elle n'a pas monté la structure, mais c'est. En fait, elle est.
Corde lisse ou à nœud?
Ouais, que j'ai non, corde lisse. Alors, personne ne fait la corde à nœud, à part. Votre époque, en EPS.
À part en régiment 4e.
Corde lisse, ouais. Et à monter.
Ah, c'est impressionnant. Vache. Franchement, ouais. C'est impressionnant. Bah, il y avait eu des athlètes français, mais je crois qu'ils n'avaient pas le droit, qui avaient monté la Tour Eiffel, sur les côtés, genre, à la main, sans sécurité, sans rien.
Ah. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est comme le français qui a monté le Burj Khalifa.
Ouais, ou le Tour Eiffel. J'essaie de retrouver son nom. Je crois que c'est Léo Urbain, si je dis pas de bêtises.
Il y a quelqu'un qui est mort.
Oui, il y en a français plusieurs, malheureusement, qui sont morts, mais on a des très très bons, comment ça s'appelle, athlètes là-dedans. C'est soit des grimpeurs urbains, soit des pratiquants du parcours, donc des traceurs. Et bon, pour le coup, là, souvent, c'est pas autorisé, mais là, en tout cas, c'est impressionnant ce qu'elle a.
Laveur de vitres.
Au niveau de la sécurité, c'était comment en bas? Parce que 110.
Et ouais, non,
il y avait rien du tout.
Bah, elle est accrochée.
Elle avait un harnais ou pas?
Ouais, c'est ça,
elle avait quand même un harnais.
Elle est accrochée à ça.
Ok.
De ce qu'on a vu de la vidéo, ouais, elle est accrochée.
C'est impressionnant quand même. C'est d'autant plus impressionnant que c'est une fille quand même. Mmh. C'est une femme, on peut le souligner.
Et alors, on peut le souligner ou on peut ne pas le souligner en disant ça ne change absolument rien sur son genre.
Non, mais comme oui, c'est vrai que dans les performances,
surtout qu'elle a battu et le record masculin.
Ouais,
et
c'est ça
qui est fou par contre. C'est quoi, ouais.
Bravo.
Bravo à elle. Et bah, du coup.
C'était vraiment très intéressant.
Comme tu l'as fait tout à l'heure.
Je suis jaloux.
Pour efficace.
Qui avait. Caroline, tu avais une autre petite chronique, tu m'as dit.
C'est une chroniquette.
Une chroniquette.
Une petite chronique. Une petite chronique comme ça, là, parce qu'on balance. Déjà, j'aimerais remercier mon
boubou. Mes parents.
Qui m'a gentiment prêté son stylo pour que je puisse écrire mes merveilleuses chroniques pour vous ce soir.
Oh, voilà. Alors, André, un stylo toujours pas radiophonique.
Un stylo, il est un peu rainbow.
Ouais, elle a un très très beau stylo qui est de toutes les couleurs.
Ah, bah ouais. C'est pour ça.
Écrit sur un très beau carnet aussi.
N'est-ce pas? Oui, japonisant, voilà. Offert par un très bon chroniqueur qui s'est vu enlever la chronique en plein carrière.
Merci.
En pleine carrière.
Bon, alors moi, j'ai une petite chroniquette sur la ballerine, parce que du coup, ça va être la deuxième grosse tendance. Je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, mais il faut qu'on en parle, les gars.
La ballerine, oui, ça pue.
Ça pue.
Non. Alors ça c'est un mythe.
Ah,
c'est un mythe.
C'est pas...
Parce que ça va être la deuxième grosse tendance.
125.
Non.
Ouais,
125.
Ouais, non, mais...
Vous êtes horrible.
Non, mais alors, non.
Ah là là, ça fait... Non, mais je sais que ça ne fait pas l'unanimité.
Non. Moi, je dis... Bruno, tu n'as le droit qu'à un seul...
C'est quoi? Mais qui a fait ça? C'était que j'ai dit ballerine. Ah, vraiment, je fais plus de chronique là-dessus. Il faut que je raye.
C'est méchant.
Je la garde pour la prochaine
fois.
Non, mais là,
c'est de la... Bon, comme tu veux.
Oh,
bon, comme vous voulez. Bon, c'est bref en plus. Hein.
Oui, allez.
La ballerine, elle va revenir. Elle va malheureusement revenir à la mode cet été. Arrête ça. Je t'ai vu, Florian, je t'ai vu.
Oh.
Ça va revenir cet été, les gars. Donc préparez-vous parce que visuellement, vous allez en voir partout. Hein.
Ah bon?
Et oui, et la ballerine, donc, elle vient, alors, vite. Qu'est-ce que tu fais?
Donc là, on est passé de raconter une petite chronique à tout le monde essayer de la stopper.
Saboter.
Non, mais c'est n'importe quoi, cette émission,
les gars. Je comprends, mais la ballerine, c'est beau, et vous allez en voir, vous êtes méchants. Bon, 1932, c'est Jacob Bloch qui fait un atelier de confection de chaussons de danse pour les retravailler pour la rue.
Oui, parce qu'on est d'accord, c'est des chaussons que pour la danse de base.
Exactement. Okay. Alors, en France, ça a été repris par Rose Repetto, qui a retravaillé la ballerine pour que son fils qui faisait de la danse ait le pied qui est un petit peu moins mal. Donc, elle a créé des trucs. Bref, en 56, ça fait un gros succès. Pour toi, Olivier Bardot, dans 56.
Et Dieu créa la femme.
Ouais, oui, exactement. Elle a demandé à Repetto de lui faire faire des chaussons parce qu'elle était bien dedans. Et bah là, gros boom, en fait. Ça a fait un succès fou. Et tout le monde veut sa ballerine. Et elle est parfaite en mi-saison. Bon, vous n'aimez pas, j'ai compris.
Bon, ça pue.
On est tous
ballerines. Mais ça pue pas. Alors là, les gars, je vous promets que sentez mes ballerines.
Ouais,
non, merci.
Tu ouvriras ton OnlyFans plus tard.
Non, mais il y en a qui disent que ça fait trop petite fille.
Ah.
Ça fait pas trop gnangnan.
J'ai pas nécessairement cette image-là de petite fille. Il y a le côté, ouais, danseur, mais enfin. Ouais, quand je pense à danseur, je pense pas à la danseuse de petite fille, je pense à quitte à une grande danseuse sur scène plutôt que enfant, quoi, mais bon.
Non, mais le côté un peu, c'est tout plat, quoi. C'est pas très, ça fait pas très femme.
La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça fonctionne avec la banane? Est-ce que tu veux mettre
banane?
C'est pas la même catégorie, mais les deux, on va les retrouver cet été, donc préparez-vous.
Eh ben, combo.
Non, mais vous rigolez, mais Olivier, depuis tout à l'heure, il cherche son sac banane, il va en commander un.
Il était sur
les deux, trois sites, là.
T'as presque fait, oui.
Ah, tu vois. Vous allez y venir à la ballerine, parce qu'il y a des ballerines pour hommes aussi, messieurs.
Ah,
bah
oui.
Ah. Eh ben, écoute, c'était vraiment.
C'était vraiment très intéressant.
Pardon, Caro, qui dit Bruno.
Est-ce que quelqu'un a encore une chronique? Moi, j'en ai une s'il faut. Enfin, s'il faut, non. C'est vrai qu'en fait, je suis un petit peu...
Sur le permis de conduire, peut-être.
Sur le permis de conduire.
Non, j'ai la suite. J'ai l'histoire du photomaton.
Ah, mais
tu... Non, attends, je crois que c'était la suite de
ça. Ah bah, c'est la suite, mais c'est la suite naturelle. C'est la suite naturelle.
Donc, ta nouvelle chronique, vas-y, n'hésite pas.
Ben, ça gruge. Ok, alors allez, voilà, vas-y. 1925, nous sommes aux États-Unis et Anatole Josepho invente la cabine photographique.
Aide-toi. Ah, le sabotage.
Autrement appelé le photomaton.
Ok, donc tu vas nous parler du photomaton.
Du photomaton qui arrive en 1928 en France. Et donc c'est un grand succès. Non, 25% déjà, ça suffit. Et donc c'est un grand succès en France, du coup, en 28, puisque. En 21, la carte d'identité est un document qui sort. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, les gens font des cartes d'identité et ils ont besoin d'une photo d'identité. Et quoi de mieux qu'un photobaton pour faire une photo d'identité? Voilà.
Oh, les transitions!
Le photomaton est à la photo d'identité ce que les cabines téléphoniques sont au téléphone. Oh. Puisqu'il y en a, en général pas mal, beaucoup.
Oh non, si tu veux. Et eh ben écoute, voilà.
On s'en va les couilles.
Ah non, t'as cherché. Non. On te redonne une chance. Bruno l'aurait jamais fait. Là, tu ne t'aides pas.
La dernière phrase, elle a été fatale.
Aide-nous à t'aider.
250.
Non, mais ouais, bon, après, bon, ça c'est Bruno qui abuse, mais
800%.
On est arrivé au vrai 100 un moment, mais là c'est plus possible. Bon, Bruno, arrête de saboter notre émission, s'il te plaît.
Je vous ferai la suite la prochaine fois.
Oh la vache. Bon bah écoutez, bon, bah, moi j'ai une vraie chronique qui n'a pas été coupée en deux. Alors malheureusement elle n'est pas assez préparée, c'est dommage, mais bah, j'aurais aimé plus en dire sur ce film. Donc je vais vous parler du film La Vague qui est sorti en 2008. Est-ce que quelqu'un l'a vu?
Oui, très bien.
Oh, ah oui, carrément. Oui, tout à fait. Alors Caro, ça te dit quelque chose? Non, alors promis, Olivier ne fait pas partie d'une secte, mais il a fait donc du coup un signe de ralliement,
non,
entre guillemets. Alors donc, du coup, La Vague, c'est un film allemand. Alors le nom de base c'est Die Well.
La Vague.
Voilà, oui, mais je n'ai jamais fait d'allemand dans ma vie, donc je sais pas si l'accent est bon ou pas. Mais donc du coup, c'est un film allemand, et là, en l'occurrence, ça parle. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ça parle d'un professeur qui fait une expérience sociale avec une classe d'élèves, où en gros, il parle de base de l'autocratie, où il explique que un groupe ou une personne seule ou un groupe peut amener à quelque chose qui se rapproche de la dictature assez facilement. Et alors lui, son but, c'est d'essayer de provoquer ses élèves un petit peu pour leur faire dire que bah non, en fait c'est pas possible, parce que surtout que là je crois que le film est dans les années 2000, mais ils ont quand même encore, l'Allemagne a quand même encore en tête bah le nazisme, et donc du coup l'Allemagne est toujours pointée du doigt à cette époque. Donc tous les élèves sont non, mais c'est pas possible qu'il y ait à nouveau un mouvement comme le nazisme en Allemagne. Donc le but de cette expérience, c'est de leur prouver qu'en fait ça se fait naturellement et pas de façon extrémiste d'un coup. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apporter des petites choses au fur et à mesure, des petites règles, comme le fait de l'appeler par son nom de famille et de le vouvoyer. Alors nous, ça nous paraît logique en France, mais c'est apparemment pas quelque chose qui est monnaie courante dans les écoles en Allemagne. Il va leur instaurer une sorte d'uniforme, donc quelque chose d'assez simple. En soi, c'est juste une chemise blanche. Et en fait, il y a aussi une idée, alors en plus des règles comme ça, il y a une idée de communauté. C'est-à-dire que il y a une micro-société qui est en train de se faire dans cette classe-là, parce que le but, c'est quand même de voir un esprit de partage entre chaque personne, parce que quand il parle de l'uniforme, il dit, bah par exemple, si on avait un uniforme, ça pourrait être une chemise blanche. Tout le monde a une chemise blanche. Et il y en a un qui fait, bah non, je suis désolé, moi j'ai pas de chemise blanche. C'est un mec qui est gothique, donc il y a la petite vanne, bah j'ai pas ça dans ma garde-robe. Et il y en a un autre à côté qui lui dit, bah moi j'en ai deux des chemises, si tu veux je t'en prête une. Et ça fait partie des choses que le prof veut mettre en avant, en disant voilà, c'est le partage entre la communauté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit plus tard chaque élève acheter sa chemise, et l'élève qui a dit qu'il en avait deux, il en achète deux à ce moment-là. Donc voilà, il y a vraiment ce côté communautarisme, et j'aide mon prochain, entre guillemets, mais dans cette société, pour que tout le monde s'entraide et fasse partie d'un tout. Le problème, c'est que au fur et à mesure, voilà, il va y avoir une petite escalade des idées. Il va y avoir un gars notamment qui se sent très proche de ça, de cette idée de faire partie d'un groupe et qui va partir un petit peu extrémiste. Donc ça va aller de faire des tags dans les rues avec un logo qu'ils auraient dessiné, à interdire certains endroits, des skateparks, des choses comme ça en disant non, ça appartient à la vague. Et en fait, le mouvement va prendre de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure du film, jusqu'à ce que en fait les profs montent le prof en question du doigt en lui disant mais c'est pas possible, il va y avoir ça va partir trop loin. Donc voilà, je vous laisse regarder ce film de 2008, parce que c'est vraiment très très intéressant. Il y a aussi une série
sur Netflix.
Il y a une série sur Netflix que, alors, j'ai pas encore vu, mais qui s'appelle La Nouvelle Vague, si je dis pas de bêtises, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors ça raconte toujours la même histoire, mais pour le coup, si ça vous intéresse, il y a sur Netflix. Et La Vague de base, je l'ai vue sur je crois que c'était sur Netflix aussi, la Vague de base. Donc si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez aller checker ça. Ça, au moins, voilà, il n'y a plus rien qui m'a...
Non, mais du coup, enfin... Décidément, ce soir...
Voilà, je peux pas en placer vite.
Vas-y, Flo.
Vas-y, Sylvain.
Sylvain.
En plus, je pense...
Reste avec nous, Flo, reste avec nous.
Non, mais je trouve que c'est un film intéressant, parce que du coup, effectivement, tu l'as dit, Joe, mais du coup, ça montre bien les mécanismes en fait qui sont en jeu dans ce genre de choses. En fait, ça part de rien et en fait ça devient un truc ça devient un truc qui dérape à un moment, enfin en tout cas qui est moins sous contrôle qu'au début. Et du coup c'est comme le film que t'as parlé il y a 15 jours je crois sur
Pas de Vague.
Ouais, c'est ça, Pas de Vague. Mais en fait ça n'a rien à voir, en tout cas ça démontre des mécanismes en fait
de l'escalade de tout ce qui peut être une croissance exponentielle d'un sujet. Là le film d'avant, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission, c'était Pas de Vague avec François Civil, où ça parle de harcèlement et potentiellement d'un adulte qui aurait fait des avances à une mineure, et en fait c'est faux en soi, mais il y a une escalade en fait de cette idée, et en fait il y a une sorte de tourbillon qui se fait autour de ce personnage qui n'arrive plus à s'en sortir de cette situation. Là c'est un petit peu ce qui arrive effectivement à ce prof qui avait juste une idée, c'était vraiment purement pédagogique, c'est pas un néo-nazi, c'est pas quelqu'un qui veut vraiment monter un groupe extrémiste, c'est juste quelqu'un qui voulait prouver son point de vue sur l'éducation, et finalement cette expérience est allée un petit peu trop loin. Il y a eu d'autres expériences d'ailleurs comme ça qui se sont passées. Alors donc, comme je disais, c'était inspiré d'une histoire vraie, parce que la vraie expérience n'est pas allée jusqu'au bout, parce que le prof s'est rendu compte que c'était juste impossible, ça risquait d'aller trop loin, et d'ailleurs il dira que c'est la pire situation qu'il a jamais vécue dans une école. Et il y avait, je crois que c'est dans une école aussi, quelqu'un qui avait fait une sorte de prison. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y avait une expérience sociale comme ça où en fait les élèves devaient rester confinés, je sais plus, à quelques jours dans le bâtiment. En fait, c'est pareil, c'est parti en escalade de violence, parce que ça a créé une sorte d'ambiance, une micro-société pareil, où tout le monde était devenu fou et sortait des codes de la société, et qui est complètement parti en vrille, quoi.
À regarder avant d'aller voter le 9 juin, du coup.
Je conseille aussi un film que j'ai vu, qui m'a scotché. Alors ça reste dans les films scolaires. Alors, c'est Amal, un esprit libre. Vous pouvez le voir au 4
secondes. Amal?
Amal, ouais. Okay. En fait, Amal, c'est une prof. Et donc ça se passe au lycée, en Belgique, dans une ZEP, en fait, avec principalement des musulmans dans les élèves. Okay. Et donc au final, au début, il y a un harcèlement sur une élève qui est lesbienne. Et donc la prof de français, trouve bien en fait de faire lire à ses élèves un poète arabe du 9e siècle, bisexuel, avec des poèmes un peu pas sexuel quoi, et un peu sexuel quoi, et en fait ça va complètement partir en vrille, en fait. Parce que justement les musulmans, là c'est plutôt assez intransigeant au niveau des musulmans, quoi. Je vous raconte pas la suite, mais c'est scotchant, quoi.
Ok, d'accord. Tu l'as vu où?
Le Casse-son-cou. Ouais. Ça ressemble beaucoup à Pas de Vague, ça ressemble beaucoup à La Salle des Profs, là, finalement, aussi, qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de films comme ça autour de la scolarité, en fait. Mais là, c'est vraiment, ça fait un peu penser à l'histoire de Samuel Paty, quoi,
Ok. Mmh. Ok, très bien. Donc du coup, c'est bon.
La chanson
de Nat Chronique. Ok, c'est à présent l'heure du Graal, celui qui nous raconte des histoires de l'histoire. Ce soir, il est question de voyage.
Bruno, t'as trafiqué.
Ouais, je crois que Bruno a tout trafiqué.
Sabotage.
Il n'y a plus rien qui marche sur la console, alors que ça, il a toujours marché. Le Graal de l'histoire. Alors, attends, je pense que ça fonctionne même pas. Alors, excusez-nous pour ces problèmes techniques.
Là,
ça ne marche pas.
Un Graal,
tu l'as fait avant. Tu veux continuer ta chronique?
Non, Florent.
C'est le moment.
Le photomaton, est-ce que la cabine téléphonique est au téléphone?
Eh ben écoutez, c'est pas grave, on va faire sans.
Qu'Internet est au middle.
Non mais je te jure, vraiment c'était n'importe quoi ce soir.
C'est quoi la prochaine fois, Flo? T'as une petite idée ou pas? Qu'on se prépare.
Bon écoutez, c'est pas grave, si le Graal veut pas se lancer, ça sert à rien. C'était sur le Titanic, pour information, ceux qui veulent le retrouver. Il est disponible sur Spotify et sur le site Radio-G. De quoi?
Il coule à la fin.
Bah ouais, alors tu connais la fin, mais il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas sur le Titanic, qu'on croit connaître, et en fait, il y a beaucoup de choses qui disent « Oh, mais il s'est tapé un iceberg, putain, c'est à cause de ça qu'il a coulé. » Non, alors, en vrai, donc là, c'est sans le Graal, mais pour moi avoir essuyé le sujet, il y a au moins 12 raisons qui font que le Titanic aurait dû couler.
Il était fait pour couler.
Ah ben oui, il y avait que des merdes. Il y a eu que des merdes sur le truc. Ouais. Il y avait des problèmes de conception. Il y avait effectivement, ce que racontait le Graal là, c'était il y avait des jumelles sur le bateau, mais en fait personne n'y avait accès parce que le casier dans lequel elles étaient était verrouillé. Le truc, il y avait que des petites histoires comme ça qui ont fait que finalement, la tragédie qu'on connaît s'est réalisée.
Moi, je me suis toujours posé une question sur le Titanic, c'est qu'est-ce qui est devenu l'iceberg du coup.
Il a fondu. C'est vraiment là.
Là, je pense que.
Florian, tu sors.
Bon, écoutez. En tout cas, c'est le moment de la chanson improbable. C'est le moment de la chanson improbable. Et je vous avoue que j'ai pas cherché longtemps pour celle-ci parce qu'en effet, il y a quelques temps, on m'a parlé d'un groupe qui aurait mêlé deux genres musicaux a priori incompatibles, l'électro et le métal. Tu me dis si ça te fait chier ce que je raconte, Florian. Donc, je vous laisse donc découvrir cette musique improbable. Eh ben écoutez, c'est compréhensible. De toute façon, c'est pas vraiment le genre de musique qu'on entend sur Radio Génie, sur DMT. Donc du coup, écoutez, c'est normal que cette musique ait été arrêtée. En tout cas, si vous cherchez un mix d'électro et de métal, vous savez que ça existe. Alors pour info, c'était Electric Callboy et ça s'appelle We Got the Moves. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Bruno, tu peux arrêter de mettre des stops, c'est bon. C'est la fin de ce numéro de Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. Merci aux chroniqueurs du soir, merci Caroline.
Merci.
Merci Olivier.
Merci.
Merci Coco.
Merci.
Merci Jonathan.
Merci.
Merci Flo.
Au revoir.
Et
adieu.
Merci
adieu.
Dieu.
Adieu.
Et merci à Bruno qui nous a suivis tout le long sur le chat.
Bruno qui est à Vannes. C'est pas drôle ça?
C'est-à-dire en car.
Oh, putain,
il y allait avec deux chats à Vannes.
Oh là là. Avec des cars, pas des chats.
Quel enfer, non, mais Bruno, reviens vite, s'il te plaît. Reviens vite pour les retenir. On va se quitter avec notre chanson de fin. On se retrouve quand vous voulez sur le site de radio-g.fr. Et n'oubliez pas, avec Dans mon tiroir, vous avez le
pouvoir.
Dans un instant va commencer l'émission Dans mon tiroir. Pendant une heure. Bonjour.
Vous venez d'écouter Dans mon tiroir. Une émission sans l'animateur Bruno. Et comme on a pu le voir, c'était du bon boulot. C'était Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. On va vite se revoir pour encore un autre soir. Encore un autre soir. En attendant, écoutez les podcasts. Ils sont sur le site de la radio. Toujours plus iconoclaste, ne ratez aucun numéro. C'était Dans mon tiroir, l'émission qui vous donne le pouvoir. On va vite se revoir pour encore un autre soir. On attend un autre soir. Prochaine émission dans 15 jours. Même heure et même station.
Radio G 101.5 FM.